archives en sarcophage.
Les chroniques gastrosophiques du professeur Rosemini.
Le projet de réaliser une recette cambodgienne ou thaïlandaise ou laotienne, telle qu'on peut la trouver dans un livre de cuisine, se transforme vite en expérience philosophique et en exercice de linguistique appliquée. La première étape, c'est bien sûr la lecture de la recette. Et par exemple, on peut trouver des mots comme graines de fenugrec, sauce hoisin. La recette peut nous demander de mettre un peu de choy sum, de bok choy, de sambac olek, de lupchang. Je ne sais pas d'ailleurs si je prononce correctement ces mots. Toujours est-il qu'en les lisant, le cuisinier amateur est pris d'un certain désarroi. Mais il n'abandonne pas et reporte ces mots sur une liste. La deuxième étape consiste à se rendre dans un supermarché asiatique, par exemple. On peut citer celui qui se trouve sous la passerelle de Plombières, encore qu'il ait été refait récemment et que sa ancienne version était plus intéressante philosophiquement. Lorsque nous pénétrons dans un tel supermarché ou dans un tel magasin, nous sommes pris d'une inquiétante étrangeté, d'un vertige métaphysico-linguistique. La confiance que nous avions dans les signes et dans les mots est mise en crise. Il est impossible de retrouver la correspondance que nous pensions évidente entre les mots et les choses. Cette correspondance qui nous rassure, qui nous permet de classer les éléments du monde en catégories pensables et maîtrisables. Ici, le gourmand se trouve dans des rayons, devant des accumulations de pots, de bouteilles, de boîtes, de sacs. Et les étiquettes qui sont dessus sont parfois en anglais, ou bien en chinois, ou bien que sais-je. Car s'il existe plusieurs milliers de langues dans le monde, quelques-unes se trouvent justement en Asie. D'ailleurs, l'idée même d'un supermarché asiatique est assez étrange si on pense que l'Asie est un continent immense et qui va au moins du Liban au Japon et même à la Turquie. Et on se demande bien finalement ce qu'il y a de commun tout ça. Toujours est-il que ces magasins et ces rayons apparaissent vite comme une forêt de signes. Une forêt dans laquelle on prend conscience de l'opacité des signes, de leur mystère. Les mots, les étiquettes, sont censées habituellement nous éclairer sur le monde. Ici, au contraire, elles brouillent notre perception de la réalité. Il peut arriver que, pris d'un vertige linguistique, le gourmand renonce à réaliser la recette, ou du moins à la réaliser à la lettre, car il ne trouvera pas les fameux ingrédients qu'il avait consciencieusement notés sur sa liste. Il peut arriver aussi que le gourmand prenne conscience que toute recette est composée de signes étranges. De signes étranges puisqu'ils sont nécessairement généraux et abstraits, alors que la réalité, elle, est multiple, foisonnante, infinie. La consigne, par exemple, hacher une gousse d'ail, ne dit rien sur la gousse d'ail qu'il faut choisir. Et nous savons bien que dans le monde, aucune gousse d'ail n'est exactement semblable aux autres. Les plus courageux des gourmands, dans une telle situation et dans un tel magasin, pourront se laisser aller à choisir les aliments au hasard, puisque les signes sont indéchiffrables. Ils feront alors l'expérience étrange de manger quelque chose dont ils ignorent le nom. Ils réaliseront que lorsque nous nous nourrissons, nous ne mangeons pas seulement des choses, nous n'ingérons pas seulement des molécules, mais nous mangeons aussi des signes et des mots.
Kai en sarcophage.
Les chroniques gastrosophiques du professeur Rosemini. Tous les dimanches à midi.